propose de commencer.
Quand tu veux, mon bon.
Ben déjà... Salut.
Salut est un mot qui signifie être guidé hors du labyrinthe spatio-temporel. Salut.
Salut. Ben tiens, pour commencer, ben, je vais vous raconter une blague. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on y a fait allusion. Alors, cette blague, ouais, ça se passe dans le futur. Et nous sommes dans une société ravagée par la guerre et les bombes à hydrogène. Les jeunes femmes nubiles se rendent dans un zoo futuriste où elles ont dans des cages des rapports sexuels avec diverses formes de vie contrefaites, non humaines. Attends, j'ai pas fini. Et dans le cas qui nous préoccupe, une jeune femme rafistolée à partir des corps abîmés de plusieurs autres personnes a des rapports sexuels avec une extraterrestre femelle. Alors là, dans la cage, grâce à la science du futur, l'extraterrestre femelle et l'autre fille conçoivent, l'enfant naît. La jeune femme et la femelle extraterrestre de la cage se battent pour se l'approprier, l'humaine l'emporte et hop, elle dévore promptement le rejeton. Cheveux, dents, orteils, tout. Là-dessus, elle se rend compte que c'était Dieu.
Comme le lui aurait dit une voix que Philippe Kadic nomme Dieu, tu n'es pas celui qui doute, tu es le doute lui-même. Aussi, ne cherche pas à savoir car tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a que l'infini. Un gouffre sans fond, une bibliothèque qui s'élève et s'allonge au fur et à mesure qu'on l'emplit, condamnée à demeurer aussi sûrement incomplète qu'elle ne l'était au jour de sa sortie de l'ébénisterie. Dieu a dit, encore, construit des raisonnements qui te permettront de comprendre. Je partirai en guerre contre leur instabilité. Tu crois qu'ils sont logiques, mais il n'en est rien, ils sont infiniment créatifs. Notre vie est un ouvrage pas uniquement du point de vue créationniste, mais au sens artistique. Ce jeu du doute exige des joueurs artistes, des êtres vivants qui sont aussi des personnages. Doutons, doutons. La certitude est source de génocide et de malentendus.
La paranoïa est un système global, un super système. C'est un effort exagéré pour comprendre le sens de choses qui n'en ont pas. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses dans l'univers qui n'ont apparemment aucune finalité. En fait, l'univers, dans son ensemble, peut n'avoir aucun sens. La raison pour laquelle nous voulons donner une cohérence à la réalité qui nous entoure est fonctionnelle. Nous voyons une connaissance et cela nous permet de prévoir. Autrement dit, il faut que nous soyons capables de reconnaître notre femme, nos enfants, nos amis, nos ennemis, la police, le postier. Et la seule raison que nous ayons pour faire cela et de nous permettre de fonctionner dans notre vie de chaque jour. Lorsque nous regardons par la fenêtre, il faut que nous soyons capables de déterminer qu'il s'agit du même postier qu'hier, même si ce n'est pas le même individu. C'est LE postier. Ordre et régularité, ce sont là les mots clés. Nous voyons quelque chose se répéter et nous en déduisons des schémas.
La mémoire est d'autant plus précieuse qu'elle est fragile. Le poisson rouge n'oublie-t-il pas le tour d'aquarium qu'il vient tout juste d'accomplir? Le psychologue Julien Janis, interrogeant la mémoire humaine individuelle, propose astucieusement cet exercice avec tout ce qu'il peut comporter d'effarant. Est-ce que la porte de votre chambre s'ouvre de gauche à droite ou dans l'autre sens?
Quel est votre deuxième doigt le plus long? Ne trichez pas.
Un feu. Est-ce la lumière rouge ou verte qui est en haut?
Combien de dents voyez-vous quand vous voulez laver, si vous voulez laver?
Quelles lettres sont associées à quel livre, à quel chiffre sur le cadran du téléphone?
Et là, pour tout le monde, si vous êtes dans une pièce qui vous est familière, sans vous retourner, notez toutes les choses qui sont au mur, juste derrière vous, puis regardez.
Rétrospectivement, je pense que vous serez surpris du peu d'images que vous êtes censé avoir gardé dans votre conscience de tant d'observations antérieures. Si la porte familière s'ouvrait soudain dans l'autre sens, si un autre doigt s'allongeait tout d'un coup, si la lumière rouge était placée différemment, ou si vous aviez une dent de plus, si le téléphone était fabriqué autrement, ou si un nouveau loquet avait été posé sur la fenêtre derrière vous, montrant ainsi ce que vous saviez depuis le début, mais pas consciemment, phénomène bien connu des psychologues. Il s'agit de la distinction entre la reconnaissance et le souvenir. Ce dont vous pouvez vous souvenir consciemment n'est qu'une goutte d'eau comparée à ce que vous savez réellement. Le poisson rouge vient d'exécuter un tour supplémentaire. peut-être davantage, que savons-nous réellement?
Que savons-nous réellement? J'ai écrit des romans pour poser la question « qu'est-ce qui est réel ?» Et j'ai proposé un grand nombre de réponses, mais il ne s'agissait pas vraiment de réponses, c'était plutôt des tentatives d'investigation de la nature de la réalité. Et finalement, un type m'a écrit pour me dire « bon, vous avez posé cette question livre après livre, maintenant écrivez-en un où vous dites ce qui est réel, répondez à la question, dites « les choses suivantes sont réelles ». Et je me suis dit, oui, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. Au fond, ça peut être vraiment monotone de continuer à poser cette question. Il faut que je révèle au monde ce qui est réel. Après tout, j'ai passé 20 ans sur le problème, maintenant je devrais vraiment connaître la réponse, non? J'ai commencé par me poser le problème en ces termes. Qu'est-ce qui est réel? Et finalement, j'ai changé la question. Je me suis demandé, qui est réel?
Si être ou ne pas être est la question, c'est sans doute parce que nous sommes et ne sommes pas dans le même temps. Binairement actif, inactif, allumé, éteint, plusieurs millions de fois par seconde. Le savoir suffit à nous en rendre partiellement conscients sans réussir à nous faire descendre à la pico-unité temporelle nous permettant de mesurer l'envergure de l'abéance. Qui remplit ces vides de la connectique neuronale et que s'y trame-t-il ? Un démiurge, un despote, un gouvernement ou un scénariste n'aurait qu'à combler les trous narratifs de notre conscience pour procéder à des ajustements et stimuler nos affects de sorte qu'ils concordent avec leurs nécessités personnelles du moment. Un lavage de cerveau. Une ablution synaptique entre deux traitements d'information. Mais un lavage au cours duquel l'objet du nettoyage est peut-être moins notre encéphale que son extension, le monde. C'est surtout le monde, dans les récits de Philip K. Dick, qui change plus, ou à une autre vitesse, que le héros. Et celui-ci finit par s'en apercevoir, ce qui n'était initialement pas calculé par les altérateurs de réalité. Ce cauchemar est sans doute la forme la plus esthétique de la théorie du complot, puisqu'on la retrouve partout sur nos écrans, de la série télévisée à la franchise hollywoodienne, en passant par le film d'auteur, sans compter le journal de 20h, cette occasion officielle de constater que le monde a été transformé pendant la journée, mais pas de la même façon selon le médium ou son support. Nous sommes les actionnaires d'un univers bâti intégralement par d'autres que nous. Nous arrivons toujours après, c'est inéluctable, et c'est ce qui confère à ce monde son atmosphère de conflit permanent.
J'ai regardé autour de moi pour voir quelles étaient les parties de mon univers qui me frappaient comme étant réelles, et par réelles, je voulais dire convaincantes. Non, je ne sais pas exactement ce que je voulais dire. C'est simplement qu'il y a certaines personnes qui me frappent comme étant réelles, tandis que d'autres me paraissent manquer de réalité. Il y a des gens qui sont très irréels.
Chaque soir, ou presque, depuis quelques années, je ne saurais en dater les débuts, mais cela est encore très récent, je me rends compte dans l'état conscient qui se tient à l'aube du demi-sommeil que je suis allongé dans mon lit, que je ne dors pas, je ne rêve pas, je sais où je me trouve, ma femme repose à mes côtés. Je suis bien à moi, mais ce que je vois les yeux clos ne correspond en rien à ce que je connais, à rien de ce que je suis ne ressemble pas à un rêve, et surtout, les gens que je vois ne savent pas que je suis là à les contempler. J'y suis moi, sans l'être, car j'observe tout comme depuis la focale d'une caméra. J'ai la sensation d'être présent à leur microcosme, mais invisible, comme un figurant, comme un visiteur qui se serait introduit dans la maison. Il s'agit quasiment à chaque fois des scènes en intérieur, je crois qu'elles ont à chaque fois lieu de jour, alors que ces sensations visuelles ne me parviennent que la nuit. Peut-être suis-je trompé par l'éclairage électrique des lieux que je visite. Je suis un intrus, un incrusté, entré sans qu'on l'ait vu ou entendu, sans qu'on l'ait même senti, puisque ma présence ne trouble pas, la scène semble m'inclure tout en m'ignorant. Parfois, les personnes que je vois regardent dans ma direction, mais elles ne m'adressent pas la parole. Je suis physiquement très proche d'elles, elles me sont de parfaites inconnues, entre deux et une dizaine selon les cas, parlent entre elles de la manière la plus cohérente qu'il est possible de concevoir de choses d'une mortelle banalité, les dialogues y sont généralement très ennuyeux, banal à un bémol près, pour moi, bien souvent si je comprends les mots que se lancent ces gens, et si je saisis les enjeux de la situation à laquelle il m'est donné d'assister, je suis ahuri de subir consciemment cette quotidienneté hyper réaliste. Ahuri de voir travailler un plombier qui ne ressemble à aucun individu que j'ai jamais rencontré, sur les pièces d'un lave-vaisselle que je n'ai jamais eu en ma possession, je ne suis de toute façon pas chez moi dans ces scènes, employant un jargon technique spécifique que je peux certes tous inventer ou convoquer en rêve, mais pas a priori lors d'un moment de conscience alors que je ne le souhaite pas, et ne me livrant à aucune opération imaginative. Je suis ahuri devant des collégiens, des élèves de 5e, je crois, répétant une chorégraphie hip-hop dans un gymnase, ahuri devant de vieilles personnes recevant pour le thé, ahuri devant une réunion de comité d'administration d'une entreprise alors que je suis éveillé au point de me dire « Je ne dors pas, pourquoi me montre-t-on ça ?» Je préférerais qu'on me passe des toiles de Kandinsky.
Maintenant, si les gens que nous rencontrons, si l'être humain est la réalité, si la réalité fondamentale c'est les autres, il nous faut constater qu'ils sont contradictoires. N'importe qui présente des comportements contradictoires, et les gens présentent beaucoup plus de contradictions que n'importe quelle autre partie de l'univers. Le phénomène qui consiste à rencontrer soudainement quelque chose d'inattendu, quelque chose qui heurte votre vision de la réalité, a beaucoup plus de chances de se produire dans vos relations avec quelqu'un d'autre que dans vos relations avec une lampe.
Ouvrir les yeux met systématiquement fin à la projection. Mais il est parfois arrivé que la séance reprenne une fois les yeux refermés. Il ne s'agit pas de rêves lucides comme dans l'état de somnolence. Non seulement je ne suis pas endormi, à supposer que je puisse certifier ma propre veille, bien sûr, mais je n'ai en outre aucune influence, ni même aucune liberté d'action ou de parole au cours de la séance. Je n'y participe pas, je ne suis qu'un témoin. Au contraire du rêve dirigé que je peux auto-susciter et orienter, ces visions se posent comme des anomalies, la résultante d'un canal capté par erreur, comme une télévision allumée par un voisin dans ma tête. Or, si je cherche spontanément à faire venir ces visions, elles se dérobent automatiquement à ma volonté. Je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur la télécommande. Elles ne veulent pas m'appartenir en propre, en me maintenant à distance, et elles se refusent à se conformer à mes synopsis. Elles ne dépendent pas d'un passé que je peux authentifier comme le mien ou celui d'un proche. Elles me semblent évidemment se dérouler au moment même où je les perçois, mais l'impression de la lumière diurne vient malgré tout contredire mon sentiment de simultanéité. Les gens que je vois parlent le français et semblent se trouver en France. Il n'y a pas de décalage horaire, plutôt une émission en différé. Je parlerai alors de coprésence des visions. Si on accepte l'ennui caractérisé qui sourd de la majorité des scènes que je visite, ennui qui seul me fonde à me questionner pourquoi soudainement imaginer ces choses, quand mes rêves du sommeil sont tous insolites, aventureux, mouvementés, érotiques, colorés. Eh bien, je trouve ce phénomène passionnant. Un rêve zéro, situé en dessous du somme à un degré inconnu du film de ma réalité. Je me dois d'être franc, cela ne m'a jamais inquiété. Simplement, au vrai, sans Philippe K. Dick, je n'aurais certainement jamais rendu aucun rapport de ces expériences à qui que ce soit. Précisément parce que, comme Philippe K. Dick, je ne connais personne à qui cela soit arrivé. Pourtant, je sais bien que je ne suis pas le seul. Je suis convaincu que c'est très courant, nous sommes tous des schizophrènes.
À ce moment-là, on commence à se poser des questions. C'est un exemple hypothétique.
Quand il rédige les clans de la lune alphane, Philippe K. Dick est un homme malheureux. Si le prix Hugo, obtenu un an plus tôt pour son chef-d'œuvre, Le Maître du Haut-Château, a incontestablement tenu compte de ce que sa croissance artistique éclatait tous les diagrammes et chahutait la perception usuelle que l'on pouvait avoir d'un livre de science-fiction, la reconnaissance publique, comme la rentabilité de plus d'une décennie de publication, demeure bien terne et très insuffisante. À compenser la sensation de tirer sur la corde pour nourrir une famille de 4 enfants et la frustration de voir son épouse gagner autant, sinon plus que lui. Nous sommes au début des années 60. Ce 3e mariage bat de l'aile. Il dit s'y sentir brimé et humilié, mortifié. Il se plaint en permanence, se prend pour le souffre-douleur de sa femme qui lui arrive un jour pourtant de frapper. Un roman refusé et quelques violences conjugales plus tard, que reste-t-il de Dick ? De l'homme plus grand-chose, mais l'écrivain a un plan pour le sauver. De la même façon qu'il avait prophétisé certaines scènes de ménage dans ses ouvrages précédents, de la même façon que son avenir lui aura paru rétrospectivement annoncé par telle ou telle situation dépeinte à la page temps du chapitre X, Dick prend conscience, au-delà de ses effets sur le lecteur, de la puissance qu'exerce la littérature sur celui-là même qui l'écrit. Que peut un livre ?
L'outil principal pour manipuler la réalité est la manipulation des mots. Si vous pouvez contrôler le sens des mots, vous pouvez contrôler les gens qui les utilisent. Je crois que, comme dans les livres, la réalité n'est jamais qu'une bulle de savon, en tout cas malléable comme de la pâte à modeler. Dans l'univers à l'intérieur duquel évoluent mes personnages, certains d'entre eux passent la main de l'autre côté d'un mur et découvrent qu'ils vivent dans un tout autre siècle. J'ai souvent le sentiment, et ça se voit dans mes livres, que tout ça n'est qu'un décor de théâtre.
Manipulateur ? Ça oui, Dick l'était. Tout un chacun dans son entourage l'a constamment attesté, avec plus de sourire dans la voix et dans le cœur que d'hostilité et de rancune. Famille et amis, les mieux placés pour le connaître, mais peut-être trop impliqués, trop le nez sur son guidon à lui pour convenablement le jauger, voyaient en lui le bienfaiteur torturé. Un homme qui savait rire et semblait parcouru d'un immense amour pour les autres. Mais pouvait brusquement leur prêter devant témoin des propos et des intentions qu'il n'avait pour ainsi dire pu avoir, leur promettre l'irréalisable pour en contrepartie exiger des démarches qu'il n'aurait décemment jamais exécutées de plein gré, ou leur reprocher des choses qu'ils ne pouvaient même comprendre. Son magnifique et point assez regretté confrère Thomas Dish se dit de lui, et ce dès leur première rencontre, que cet expert en canular, ce pro de l'intox, qui avait fait un métier d'entretenir des croyances chez les autres, œuvrant à systématiser tout ce qu'il imagine, le subjuguait, littéralement. Dish ne livre-t-il pas ici la définition même de l'écrivain ? Un écrivain dont les idées vivantes, singulièrement vivantes, affectaient un peu trop le réel de ses proches. Bon temporel. Dans sa préparation de la conférence de Metz, enregistrée chez lui sur un dictaphone le 17 septembre 1977 pour répéter son intervention, Dick assure que littéralement les idées sont vivantes. Quelques mois plus tard, en février 1978, il consigne dans le folder 28 de son exégèse « Les pensées sont ontologiquement réelles et non de simples descriptions verbales d'une réalité matérielle. Elles sont l'ordre définitif de la réalité. » Attention à ce que vous écrivez, ça pourrait devenir vrai, avance quant à lui Grant Morrison dans Les Invisibles, son œuvre la plus malaxée d'influence dickienne. Le plus sérieusement du monde, Morrison scénarise ses bandes dessinées pour qu'elles aient lieu dans sa vie, pour que ce qui arrive au personnage qui le représente lui se transpose à l'échelle des possibles sur ce plan d'existence. Ce n'est pas sans danger, mais sa foi en son art lui donne raison. Morrison éprouve le rêve qu'il a stylisé. De même avant lui, Philip K. Dick, ayant pleinement saisi les enjeux réels de la littérature en tirant parti de sa théorie des pensées vivantes et activables, n'eut plus qu'à se mettre consciemment en scène dans ses propres livres, en souhaitant que sa vie en soit substantiellement modifiée et améliorée. Qui est Dick dans ses romans ?
Ma mère m'a dit une fois « Phil, tu es mauvais, tu es pourri, tu ne devrais pas être ce que tu es !» Tout ce que je pensais était automatiquement mal.
Jouer les fragiles et accuser un tiers, puis se faire passer pour fou, ou poète, ou malade, en tous les cas autre, à seule fin d'expliquer et faire accepter par avance frasques et lubies, incohérence des paroles ou inconstance des actes, est hélas une maladie pompée par les mœurs de nos contemporains, au point d'en être devenu invisible. Vouloir cependant déceler en Philip K. Dick un pervers narcissique est une tentation aussi vaine qu'épuisante. Nombreux sont les psychiatres à s'être cassé la tête et les dents face à ce génie, tantôt accusé d'être un odieux simulateur, tantôt diagnostiqué comme un authentique paranoïaque, tantôt soigné comme un hypochondriaque ou considéré comme un toxicomane, un blagueur, un écrivain, testant ses idées sur un public complaisant. Peut-être incubait-il toutes ses facettes à la fois, tour à tour ou en même temps.
On vous dit, il ne faut pas changer la société, il faut vous changer vous-même. Et je ne sais pas ce qu'il faut changer. D'abord soi-même. Faut-il se changer soi-même pour pouvoir changer le monde ? Je pense qu'il faut faire les deux. Changer les choses intérieures et les choses extérieures, les deux. Les gens devraient faire ce qu'ils ont envie de faire, jusqu'à ce qu'on leur donne une raison vraiment bonne de ne pas le faire. J'ai discouru un jour, à Vancouver, sur la différence entre l'être humain véritable et la machine à réflexe. J'ai employé l'expression « une personne aux yeux de lézard ». On regarde ces gens et ils ne sont pas réels. Leurs yeux sont morts, leur regard est vide. Marx a très bien exprimé cela en parlant de la bourgeoisie. Il disait « Vous êtes la bourgeoisie, ce n'est pas un cœur qui bat dans votre poitrine, mais une horloge. » La première fois que j'ai lu cela dans Marx, cela m'a vraiment indigné parce que je pensais qu'il chosifiait les êtres humains. Vous êtes membre d'une classe qui est mon ennemi et par conséquent, je ne vous traiterai pas comme un être humain. Un peu comme les nazis ne considéraient pas les juifs comme des êtres humains. Mais je ne crois pas que c'est ce que Marx voulait dire. Je pensais alors que l'on ne doit jamais chosifier les gens. Et c'est la première chose que l'on fait quand on polémique. On chosifie ses adversaires, volontairement. D'accord, c'est une question morale, on doit toujours traiter les gens comme des êtres humains, mais il y a aussi une question épistémologique. Est-ce que tout le monde est véritablement humain ? Il y a des gens qui n'ont pas été chosifiés, ni par vous, ni par moi, mais qui se sont chosifiés eux-mêmes, ou qui ont été chosifiés par quelque chose d'autre, la drogue, une idéologie, une insuffisance hormonale au niveau du cerveau. Quoi qu'il en soit, ils sont devenus des objets, et nous ne pouvons pas les rendre humains simplement parce qu'on les considère comme tels. Pas plus qu'en regardant une poupée et en lui parlant, on ne peut la transformer en une créature vivante. Au Moyen-Âge, on croyait à la génération spontanée, et il y a un type qui est venu et qui a dit « Non, il y a toujours des relations de cause à effet, tout a une cause. » Et parfois, j'ai l'impression que cela n'est pas vrai. Je pourrais jurer qu'il y a des choses qui naissent de rien, du moins en termes de comportement humain. J'ai l'impression souvent que de plus en plus, lorsque je considère le problème de la réalité des gens, les gens font des choses qu'il leur est impossible de faire. Comme par exemple, quelqu'un dans un état totalitaire, quelqu'un qui a été démoli, réduit à l'état de machine à réflexe, dont l'esprit est prisonnier, sous contrôle, comme les androïdes dont je parlais dans mon discours de Vancouver. Et c'est ce qui m'obsédait quand j'ai parlé là-bas. Je pensais que cela était irréversible, comme une lésion cérébrale. Qu'une fois que quelqu'un avait été arraché de cet état humain de liberté et d'initiative pour être réduit de la sorte, c'était cuit. Mais maintenant, je ne pense plus que cela soit vrai. Depuis, mon expérience s'est élargie. J'ai vu des gens qui avaient été réduits en purée, qui auraient dû n'être plus que des robots, que des machines qui font ce qu'on leur dit de faire. Et tout à coup, il y avait une étincelle, un moment de liberté et d'initiative. Et rien dans leur vie passée ne pouvait expliquer ce moment.
Il n'y a absolument aucune différence, aucune délimitation entre cet homme et son œuvre. Le tricheur et le héros, le loser et le génial, l'élu et le raté, le profiteur et le philanthrope, puis tous les autres à leur suite ne sont que le produit des tentatives dickiennes d'éventrer le tulle du réel. À chaque nouvel univers dactylographié, sa nouvelle incarnation de Dick, comme de sa némésis. Peut-on affirmer qu'il était fou en permanence ? Peut-on affirmer qu'il était vraiment fou ? Et s'il était fou, mais seulement par intervalle, quand devenait-il fou ? Et qu'est-ce qui le rendait fou ? Ratiocine l'évêque dans la transmigration de Timothy Archer. Et l'on jurerait lire Dick, cherchant à surveiller les switches de sa propre personnalité, comme pour en surprendre l'occurrence. Combien de fois ce quadruple insoluble problème dut-il s'imposer aux épouses de Philip K. Dick ?
C'est un peu comme quelqu'un que l'on suppose totalement aveugle et qui voit pendant quelques instants. Son nerf optique n'a pas été coupé, d'accord ? Et c'est quelque chose de terriblement important. C'est à nouveau la donnée qui ne peut pas s'intégrer à la théorie. Si l'on prend quelqu'un, qu'on lui ôte certaines parties de cortex cérébral, il est décervelé. Il va et vient tout en faisant ce qu'il est censé faire. un beau jour, quand il pense que personne ne le regarde, il s'empare d'un appareil photo, photographie ses adversaires, met le film dans une enveloppe, écrit une adresse étrange, va mettre le tout dans une boîte aux lettres. J'ai vu des gens qui avaient été littéralement décervelés se dresser et faire les choses les plus nobles, même si cela ne durait qu'une seconde. Pas besoin d'agir pour l'éternité. Le Christ lui-même n'est pas resté sur la croix éternellement.
Je ne suis pas une personne, mais une voix qui s'admoneste. Pire, je parle comme j'entends parler. L'air de rien ou presque, cette autocritique de Dick allusionne à cette voix qui s'adressa à l'écrivain comme depuis l'intérieur de son crâne, conscience d'une vie antérieure à partir du 20 du mois de février 1974. Cette voix off, et les visions qui s'y agrégèrent comme au cinématographe, sont devenues dès lors le point d'interrogation le plus courtisé de la vie du romancier. Le récurrent sas d'entrée de tous ses lecteurs, sceptiques, fanatiques ou autres. Dick se prenant pour Simon le magicien, Dick s'exprimant dans des langues mortes ou inconnues de lui, Dick entraîné en voyage astral vers la Grèce antique ou la Rome de César, Dick recevant un rayon de lumière couleur de fraise l'alertant de l'imminence d'un grave événement qui se produira bien dans le réel, Dick projeté dans son propre cinéma personnel comme au cœur d'une lanterne magique dont son cerveau alimenterait la lampe, forcé d'admirer les fresques des plus grands maîtres du XXe siècle, du cavalier bleu au surréaliste, en contact visuel avec des œuvres picturales qu'il affirmait ne pas même connaître. Dick édifié par l'esprit tutélaire d'un rabbin mort 600 ans plus tôt.
Certaines personnes affirment se souvenir de vie antérieure. J'affirme me souvenir d'une autre vie présente, très différente. Je n'ai pas connaissance de quiconque ayant affirmé cela auparavant, mais j'aurais tendance à soupçonner que mon expérience n'est pas unique. Ce qui peut-être est unique est le fait que je veuille en parler.
Si l'anamnèse devient chez lui un phénomène conscient, quelles qu'en soient les causes, il n'est pas impossible que Philip K. Dick ait vu ce qu'il n'était pas censé voir, ou ce que nous sommes censés voir mais ne voyons pas. Le film perdu de nos vies oubliées. Nos chairs se souviennent de celles qui les ont enfantées. Notre code porte sur lui les turpitudes et les emballements qui, par centilliards, ont régenté notre venue à ce monde. Nous sommes ceux qui nous ont précédés comme nous contenons ceux qui vont advenir. Posons que la mémoire collective est engrammée dans notre ADN comme une cinémathèque dans un disque dur en réseau. L'histoire de la mémoire, telle que filoutement proposée par nombre de nos savants, est une opération interlope visant à homogénéiser, donc ratiboiser, cette collection interpersonnelle de films, ne travaillant qu'onivellement par la moyenne, c'est-à-dire par le bas. Le fait des faits admis, non scientifiquement, non énestiquement, mais politiquement, l'histoire, écrite par les vainqueurs, les vaincus ou les marchands, est toujours sélection artificielle. Admettons pendant quelques minutes que la mémoire collective ne soit pas qu'une expression pour historiographe, une formulation diplomatique ou un devoir de vacances. Le pèlerinage auquel nous convierait une telle mémoire serait intérieur et emprunterait un territoire partageable par tous via le portail de l'inconscient qui, lui, est propre, qui nous est propre.
En fait, je crois bien que tout m'est venu de l'époque où je collectionnais des timbres. Et que je me suis aperçu que la plus grande partie d'entre eux, les plus précieux d'ailleurs, étaient des faux. J'en ai parlé à un marchand, il m'a répondu que la contrefaçon était si parfaite qu'il valait bien l'original. Et j'ai trouvé cela fantastique. L'idée d'une contrefaçon tellement parfaite qu'elle puisse passer aux yeux de tous pour l'original. Les Grecs avaient un mot pour qualifier cela, dokos. Le mot dokos faisait référence à une pièce de monnaie imitant les vraies pièces de façon si probante qu'elle était autorisée à circuler. Et c'est ça qui m'a fasciné. Cette pensée dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mon idée maîtresse, le monde entier dans lequel nous vivons est dokos. Une imitation très habile, très complexe et très sophistiqué. Je pense qu'à un certain niveau, nous savons tous inconsciemment que le monde actuel n'est qu'une contrefaçon que nous essayons solidairement de conserver. Et je crois que tous, en tant qu'êtres humains, construisons cette illusion. Je ne crois pas que ce soit Dieu qui l'ait créé. Nous avons tous tramé et conspiré pour l'édifier d'un commun accord et y vivre. Mais il nous reste de nombreux souvenirs du monde réel dont nous connaissons l'existence. Par conséquent, je pense que mes romans rencontrent l'approbation du public parce que quelque chose en lui se réveille devant ce rappel obsédant.
Devant la recrudescence des théories fumeuses visant à établir Dick comme un malade mental,
pourquoi pas,
un affabulateur,
pourquoi pas,
ou encore un terrien élu par la divinité ou des extraterrestres afin de devenir le récipiendaire d'informations cosmiques,
pourquoi pas,
son ami Norman Spinrad décide en substance que face à la multiplexité des réalités qu'abordait l'auteur de Blade Runner, toutes les réalités sont des réalités altérées, les unes vis-à-vis des autres. L'absence de toute définition d'une distinction durablement valide entre réalité et illusion, l'original et sa copie, authenticité et simulation, etc., ne permettant pas de pencher en faveur d'une seule explication donnée quant à la voix intérieure de Dick, ni de les rejeter toutes en bloc comme la supercherie d'un rusé gamin qu'un rusé gamin aurait mis en point pour faire parler de lui, et Dieu sait que Philip K. Dick aimait s'adonner à ce jeu, nous devons les appréhender comme ce qu'elles sont. Quelques hypothèses, y compris des plus extravagantes, sainement formulées par Dick lui-même.
Dans mon discours de Vancouver, j'ai dit que la caractéristique fondamentale de l'être humain, tel que je le conçois, et l'aptitude à faire une exception à n'importe quelle règle. L'androïde répète continuellement la même action, c'est une sorte de mouvement machinal. Oh, bonjour, comment ça va? L'exécution mécanique d'un rituel, c'est comme s'il disait « Nous sommes les hommes creux, nous sommes empaillés, et on a l'impression que même s'il peut faire toutes sortes de choses, l'androïde ne possède pas la vie. » C'est ce que l'on dit du schizophrène, il ne fait qu'imiter. Il observe les gens, les voit dire « Oh, bonjour, comment ça va ?» et il les imite. Il n'a jamais vraiment compris pourquoi les gens se disent bonjour le matin, mais il les a vus faire et il le fait aussi. Et cela ne sera révélé que quand surviendra une crise. Parce que, quoi qu'il puisse se produire, il continuera à accomplir le rituel. Oh bonjour, comment ça va? La maison est en train de flamber et vous dites « Ce n'est pas le moment! Attrape plutôt un extincteur !» Et il répond « J'espère que tu as bien dormi. » Et tout à coup, vous réalisez que vous êtes en train de parler à un androïde. Ou alors vous êtes mort et il dit « J'espère que tu as bien dormi. » Tu veux une tasse de café? Vous êtes mort et vous propose du café, c'est vraiment cauchemardesque. Je crois que c'est l'essence même de la folie. Comme si je tuais ma petite amie et que j'empaillais pour pouvoir lui parler sans qu'elle me crée de problème. Par exemple, je dis « Oh bonjour, tu veux du café ?» Et elle me répond « Tu es vraiment moche ce matin, encore pire que d'habitude !» Mais cela vaut quand même mieux que si elle était empaillée et que je lui dise « Bonjour, tu as bien dormi ?» et qu'elle ne puisse pas me répondre et que je trouve cela bien plus.
J'ai un ami qui est resté assis pendant 5 jours et qui a finalement déclaré qu'il était complètement transformé. Il avait compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Et par conséquent, il était devenu un autre homme. Et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Il m'a répondu « Je vais rester assis. » Parce que je me sens vraiment tellement bien. Tu es resté assis ici pendant 5 jours. Tu as tout compris. Tu te sens merveilleusement bien.
Et tu ne vas rien faire.
Tu vas rester assis ici pour le restant de tes jours. Oui. Et je lui ai dit, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'un changement intérieur ne se manifeste pas dans le monde extérieur. En ce sens, je ne suis pas oriental pour un sou. Je deviens dingue, moi je vais craquer.
C'est une réaction normale. Salut.
Salut.
Thank you. pause maintenant de 10 minutes. Il y a de quoi voir. Il y a des livres à dédicacer, notamment les Gatrobes, le petit guide à travailler de Philippe Cadic. Il y a les livres de Gélu. Et puis dans 10 minutes, il y a Marie-Laurent Kessy, concluant cette journée.